Vous écoutez On lit pour vous.
L'itinérance des femmes commence souvent avant la rue. Un texte de Mélanie Fournier paru le 9 juin 2026 dans La Conversation. Nous reconnaissons l'itinérance lorsqu'elle se donne à voir dans la rue. Un corps dehors. Nous reconnaissons l'itinérance lorsqu'elle se donne à voir dans la rue. Un corps dehors, exposé, sans adresse fixe. Cette image nous arrange presque autant qu'elle nous inquiète. Elle permet de croire que le problème commence là où le domicile s'arrête. Or, les trajectoires des femmes déjouent ce scénario. Elles se logent souvent dans des espaces privés, derrière des formes de stabilité apparente, là où le danger se retire du regard sans disparaître. Pour plusieurs, le « dedans » n'a jamais été ce sanctuaire que célèbrent nos fictions domestiques. Il a parfois été le lieu même où la menace s'installe et devient ordinaire. Avoir un toit dans ces conditions ne suffit pas à être en sécurité. Encore faut-il que ce lieu puisse être habité sans reconduire ce dont il devait protéger. Dans mes recherches doctorales en psychologie menées auprès de femmes ayant connu l'itinérance et le relogement, j'étudie cet écart entre être logé et pouvoir habiter. Il invite à penser l'itinérance féminine au-delà de l'absence de logement à partir d'une fragilisation du rapport au refuge lui-même. Hors de la rue, mais pas à l'abri. Elle passe d'un divan à l'autre, accepte une chambre provisoire, reste parfois dans une relation violente ou compose avec une hospitalité qui exige quelque chose en retour. Elle n'est pas dehors. Elle n'est pourtant nulle part chez elle. C'est ce qu'on appelle l'itinérance cachée, non pas l'absence complète de toit, mais l'impossibilité de disposer d'un lieu à soi. Cette forme d'itinérance tient souvent à une présence tolérée chez les autres, révocable, conditionnelle. Et puisqu'elle se déroule dans des espaces privés, elle demeure plus difficile à reconnaître. Ce retrait tient aussi à une stratégie de survie. Si plusieurs femmes évitent la rue, ce n'est pas parce que leur situation serait moins grave, mais parce que l'espace public et certains refuges peuvent devenir des lieux d'exposition accrus. Les recherches documentent des risques importants de victimisation, de harcèlement et d'agression dans ces contextes. La fuite vers des espaces privés fragiles constitue alors moins une solution qu'un déplacement de l'insécurité. Dans une étude sur la spirale de l'itinérance au féminin, une participante résumait brutalement ce choix piégé. Devoir aller chez un homme qui te maltraite, qui te fait tous les temps, pour avoir une adresse. La formule est dure, mais elle dit ce que les catégories administratives peinent à saisir. L'adresse peut parfois être obtenue au prix de sa propre sécurité. Un tiers des sans-abri recensés sont des femmes. Cette invisibilité a des effets très concrets. Les femmes apparaissent moins nombreuses dans les dénombrements de l'itinérance visible, mais elles sont fortement présentes dans ces formes cachées. Ce qui échappe au regard public échappe aussi plus facilement aux mécanismes de reconnaissance et d'intervention. L'invisibilité devient alors une forme de preuve contre celle qu'elle efface. Un angle mort d'autant plus préoccupant que même la part visible de l'itinérance féminine augmente. À Montréal, la proportion de femmes recensées en situation d'itinérance visible est passée de 23 % à 29 % en 4 ans. Si ce chiffre ne rend pas compte de tout le phénomène, il suffit pourtant à rappeler que cette réalité n'a rien de marginal. Dépendance et dette implicite. Cette sous-reconnaissance tient aussi à une attente sociale persistante. Une femme devrait pouvoir être accueillie quelque part, comme si les liens familiaux, amoureux ou amicaux formaient naturellement autour d'elle un filet de protection. Tant qu'elle peut dormir chez quelqu'un, sa situation reste difficile à nommer. Or, cette aide apparente peut masquer une dépendance fragile, une dette implicite, une impossibilité de choisir vraiment où rester. Ces trajectoires correspondent rarement à une rupture nette. Elles prennent plutôt la forme d'arrangements qui semblent provisoirement tenir jusqu'à ce qu'ils cèdent. L'itinérance féminine se loge souvent dans ce délai, avant la rue, avant l'urgence visible, au moment même où la survie dépend encore du maintien de liens, parfois coûteux. Violence dans l'enfance, départ précoce. Bien avant la rue, certaines violences s'installent dans l'espace même qui aurait dû faire abri. Une femme rencontrée dans une recherche sur le sens du « chez-soi » résume cette fracture précoce. « Aucun des endroits où j'ai vécu avec mes parents ne ressemblait à un chez-moi. » Elle évoque ensuite une intervention policière dans sa chambre d'enfant au milieu de ses jouets. Ce type de récit montre que la maison peut cesser très tôt d'être associée à la protection pour devenir un lieu d'intrusion, d'alerte ou d'exposition. Les données québécoises vont dans le même sens. Environ une personne sur 13 déclare avoir subi de la violence sexuelle de la part d'un adulte avant l'âge de 15 ans. Dans près de 9 cas sur 10, l'incident le plus grave avait été commis par une personne connue de la victime. Les départs précoces du domicile prennent alors un autre sens. Certaines filles ne quittent pas la maison par désir d'autonomie, mais parce que rester devient impossible. La maison, censée protéger, devient le lieu du danger. Cette exposition ne disparaît pas à l'âge adulte. Après l'âge de 15 ans, une femme sur 4 rapporte avoir subi au moins une agression sexuelle, sans compter les agressions commises par un partenaire intime qui sont comptabilisées séparément. Au Québec, 40% des femmes de 18 ans et plus ayant déjà été dans une relation intime ou amoureuse rapportent avoir subi au moins une forme de violence par un partenaire intime au cours de leur vie. La violence conjugale et familiale devient ainsi l'un des chemins par lesquels l'espace domestique peut précipiter vers l'itinérance. Le problème n'est pas seulement que certaines femmes subissent de la violence à la maison. C'est que cette violence vient précisément brouiller la fonction symbolique du domicile. Le lieu censé protéger devient celui dont il faut se protéger. L'itinérance féminine apparaît alors moins comme une sortie brutale hors du domicile que comme la conséquence d'un abri progressivement retourné contre celle qu'il devait protéger. Avant l'appartement autonome, il faut des lieux de transition. Ces réalités obligent à penser l'itinérance des femmes comme un continuum et non comme un simple passage de la rue au logement. Avant même l'accès à un appartement autonome, il faut multiplier les lieux de transition, les centres de jour et les espaces non mixtes où les femmes peuvent retrouver un minimum d'apaisement. Ces lieux ne sont pas des solutions de second ordre. Ils représentent parfois le premier espace où le corps n'a plus à demeurer continuellement en alerte. Mais la réponse ne peut pas s'arrêter au seuil de l'appartement. Pour plusieurs femmes, l'accès à un lieu à soi ne met pas fin à l'insécurité. Il exige un accompagnement capable de reconnaître ce que l'espace domestique peut réveiller. Le logement social avec soutien communautaire, les suivis à long terme et les approches fondées sur la santé relationnelle ne sont donc pas des ajouts périphériques aux politiques d'habitation. Ils conditionnent souvent la possibilité même de rester quelque part. Autrement dit, il ne suffit pas de demander si une femme est logée. Il faut aussi se demander ce que ce lieu rend possible ou impossible. Peut-elle y demeurer sans peur, sans emprise, sans disparaître à nouveau du regard social? La rue n'est pas toujours le point de départ du danger. Elle en est parfois la forme la plus visible. C'était « L'itinérance des femmes commence souvent avant la rue ». Un texte de Mélanie Fournier, paru le 9 juin 2026 dans La Conversation.
autres lieux retrouvés, Mathieu Lacat dévoile une facette méconnue d'Ozias le Duc, un texte d'André Constantin Passiour, paru le 17 juin 2026 dans le magazine Fugue. Corelieu retrouvé, c'est le titre de cette exposition qui se déroulera du 20 juin au 27 septembre prochain au Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire. Pourquoi Corelieu? Parce que Corelieu est le nom que le peintre Ozias le Duc a donné à l'atelier qu'il s'est construit en 1890 au pied du Mont-Saint-Hilaire. Ce mot signifie « l'endroit où le cœur est en tout ». Et quelle est la relation entre le peintre Mathieu Lacat et Ozias le Duc? La réponse est simple. Dans le cadre de la programmation du 30e anniversaire du musée, l'exposition de Mathieu Lacat se concentre sur trois figures majeures de l'histoire de l'art québécois, Ozias le Duc, Paul-Émile Bordua et Jordi Bonnet. Mais au-delà de l'hommage, l'artiste Mathieu Lacat avance une hypothèse qui pourrait jeter un éclairage nouveau sur l'un des peintres les plus importants du Québec. Ozias le Duc aurait entretenu avec le poète Guy de la Haye une relation dépassant le cadre de la simple amitié. Une exposition née d'une absence. À l'origine du projet se trouve une déception. Lors d'une visite au Mont-Saint-Hilaire, Mathieu Lacat découvre que Corelieu, l'atelier construit par Ozias le Duc en 1890, a disparu. L'idée originale de l'exposition et de cette recherche sur le Duc vient d'abord du fait que je suis allée visiter des amis à Mont-Saint-Hilaire et que j'ai été déçue de constater que le bâtiment de le Duc avait été détruit. On sait que Bordua, le Duc et Bonnet ont tous les trois habité dans la région de Mont-Saint-Hilaire. Cela m'a amené à me plonger dans les œuvres de ces trois grands artistes, et cela m'a inspiré. Diplômé en art visuel de l'Université Concordia en 2005, Lacat entreprend alors un vaste travail de recherche afin de revisiter l'héritage de ces trois créateurs qui ont marqué, chacun à leur façon, l'histoire culturelle du Québec. Je voulais créer des œuvres avec des allusions et toucher à l'essence de leur création. Quelles sont les racines de leur création? Qu'est-ce qu'ils voulaient dire? L'exposition rassemble une quarantaine d'œuvres de différents formats, allant de grandes toiles de 6 pieds sur 8 pieds à des dessins au fusain. Des extraits de correspondances et plusieurs références historiques viennent également enrichir le parcours. Une découverte qui change le regard sur Ozias le Duc. Au fil de ses recherches, Mathieu Lacat s'est toutefois retrouvé sur une piste inattendue. En consultant le fonds d'archives d'Ozias le Duc, ainsi que celui du poète Guy de la Haye, il a accumulé des indices qui l'ont amené à remettre en question certains aspects de la biographie officielle du peintre. Dans les ouvrages écrits sur le Duc et dans la recherche subséquente, les gens ont eu des soupçons, mais n'ont pas cherché à investiguer la chose plus à fond. J'ai décidé de creuser le sujet. L'artiste souligne notamment un fait qui l'a intrigué dès le départ. Ozias le Duc a peint plusieurs portraits de Delahaye, mais aucun portrait de sa femme. Cela m'a mis la puce à l'oreille. Il y avait bien des lettres aussi de Delahaye à le Duc. Mais il faut se rappeler qu'à l'époque, on ne pouvait pas parler de ce genre de relation ouvertement. À cela s'ajoutent d'autres éléments troublants. Le mariage tardif de le Duc, à l'âge de 43 ans, avec une cousine plus âgée que lui, abandonnée par son premier mari puis devenue veuve, lui apparaît davantage comme une union de convenance que comme une histoire d'amour. L'absence de représentation de cette épouse dans son œuvre renforce également ses interrogations. Selon Lacan, plusieurs indices convergent vers l'existence d'une relation amoureuse entre le duc et de la Haye, une hypothèse qui n'a jamais été explorée en profondeur dans les ouvrages consacrés au peintre. Parmi les éléments les plus révélateurs figure une inscription laissée par le duc sur un portrait du jeune poète. « À mon ami Guy de la Haye », en lettres majuscules, sauf le O. Le petit O permet d'isoler le mot latin « amo », signifiant « j'aime ». À l'époque, il y avait des sentiments, des gestes, mais il n'y avait surtout pas d'étiquette. On ne pouvait pas vivre cela ouvertement comme aujourd'hui. On considérait le duc comme un bohème et de la Haye était vu comme un dandy. Pour l'artiste, cette découverte ouvre la porte à une relecture complète de certains symboles présents dans l'œuvre de le duc, dont plusieurs aspects demeurent encore aujourd'hui mystérieux. Convaincu de l'importance de cette piste, il travaille actuellement à la rédaction d'un livre consacré à cette recherche. Nom sous l'écorce. Cette révélation se retrouve au cœur de l'œuvre phare de l'exposition « Nom sous l'écorce ». Créée spécialement pour l'occasion, cette grande composition s'inspire à la fois du tableau Erato, « Muse dans la forêt » d'Ozias le Duc, et d'un poème du même nom publié par Guy de la Haye dans son recueil « Les phases » en 1910. Lacan y représente les visages de le duc et de la Haye surgissant de l'écorce de deux arbres, comme si le temps révélait enfin une histoire longtemps demeurée enfouie. Entre eux apparaît un autoportrait nu de l'artiste contemporain. Derrière cette figure se profile une forêt empruntée à l'univers pictural de le duc. Sur son ventre, Lacan a reproduit une illustration réalisée autrefois par le peintre pour un ouvrage de Delahaye. On y distingue notamment un serpent formant un cœur, symbole qui évoque à la fois l'amour et l'interdit. L'œuvre agit comme une synthèse de toute la démarche entreprise par l'artiste, recherche historique, interprétation symbolique et création contemporaine. Bonté, liberté et mystère. Si la figure de Leduc occupe une place centrale dans l'exposition, les deux autres artistes abordés y jouent également un rôle important. Mathieu Lacan associe à chacun d'eux un thème fondamental. Chez Ozias Leduc, 1864-1955, il identifie la bonté comme moteur de création. Cette qualité se manifesterait dans l'humilité des sujets représentés, la douceur de la lumière et la délicatesse du traitement pictural. Paul-Émile Bordua, 1905-1960, incarne quant à lui la liberté. Son parcours témoigne, selon Lacan, d'un désir constant de se libérer des contraintes morales, religieuses et artistiques, afin de parvenir à une expression authentique. Enfin, Jordi Bonnet, 1932-1979, est associé au mystère. Marqué par la guerre civile espagnole, l'amputation de son bras droit et la mort tragique de son fils, il a développé une œuvre tournée vers ce qui échappe à la compréhension immédiate et survit à la disparition. À travers ces trois thèmes, l'artiste propose un dialogue entre passé et présent, tout en démontrant que les grandes figures de l'art québécois continuent d'alimenter la réflexion contemporaine. Présentée dans le cadre du 30e anniversaire du Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire, l'exposition sera accompagnée d'une vidéo retraçant les quelques 18 mois de recherche et de création qui ont mené à sa réalisation. Mathieu Lacat offrira également des visites guidées au cours de l'été, permettant au public d'approfondir cette démarche où l'histoire de l'art, l'enquête et la création se rencontrent pour faire surgir de nouvelles lectures du patrimoine québécois. Mathieu Lacat travaille actuellement à l'écriture d'un ouvrage relatant la relation particulière qu'aurait entretenue Ozias Leduc avec Guy Delahaye, un livre qui paraîtra prochainement. Info, Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire, mbamsh.com. C'était Corollieu retrouvé. Mathieu Lacat dévoile une facette méconnue d'Ozias Leduc, un texte d'André-Constantin Passiour, paru le 17 juin 2026 dans le magazine Fugue.
Effacer l'histoire. Un texte signé Isabelle Picard, qui est ethnologue. Texte publié dans la presse du 28 juin 2026. C'est connu, l'histoire est politique. Son interprétation aussi. Prenez les premiers explorateurs étrangers de notre territoire. Selon les Français, Jacques Cartier a, en 1534, été le premier à « découvrir » entre guillemets de nouvelles terres en Amérique du Nord. C'est ce que j'ai appris à l'école. Si vous êtes plutôt de culture anglo-saxonne, on vous a sans doute enseigné que c'est John Cabot qui, en 1497, atteignait les côtes de Terre-Neuve. Dans tout ce récit officiel, on oublie les pêcheurs basques, on passe vite sur les sagas vikings et encore plus vite sur les premiers habitants de ce territoire. D'accord, les choses ont changé. Il est plus difficile aujourd'hui de faire l'impasse sur l'occupation territoriale millénaire des Autochtones en Amérique. Pourtant, certains gouvernements tentent encore de le faire. Le 21 juin dernier, Journée nationale des peuples autochtones, une exposition devait être inaugurée au Labrador. L'exposition, intitulée Innu Pacasium, P-A-K-A-2-S-I-U-N, ce qu'on pourrait traduire par contribution, pluriel, ne verra jamais le jour. En tout cas, pas dans sa forme prévue. Pourtant, l'exposition était prometteuse. Artefacts provenant du Musée canadien de l'histoire, consultations des aînés et porteurs de savoir, travail des historiens et des archéologues. 2 ans de travail. La source du litige tient à ceci. Le gouvernement provincial ne veut pas inclure dans l'exposition une frise chronologique qui fait remonter la présence des Innus au Labrador à plusieurs millénaires, ni, conformément à leur version de l'histoire, établir des liens entre des outils de pierre millénaires exposés et la présence des Innus du Labrador en ce territoire. À leurs yeux, il semblerait qu'accepter l'un, c'est accepter l'autre. Si le gouvernement de Terre-Neuve et Labrador n'admet pas la présence des Innus sur le territoire depuis des millénaires, à combien d'années l'estime-t-il? La réponse courte, c'est 300 ans. 300 ans? Pourtant, la tradition orale raconte une autre histoire. Les preuves archéologiques pointent également dans une autre direction. D'ailleurs, la plupart des archéologues n'adhèrent pas à la version tronquée de l'histoire qu'est celle du gouvernement terneuvien, a déclaré en entrevue à CBC Anthony Jenkinson, un archéologue qui travaille depuis des décennies au Labrador. On parle plutôt d'une occupation continue. Ne voulant pas que l'on taise leur version de l'histoire, les Innus ont préféré annuler eux-mêmes l'exposition qui aurait permis à leurs 3200 membres d'en apprendre davantage sur eux-mêmes. L'histoire est politique. Je disais plus haut que l'interprétation de l'histoire est politique. Il faut savoir que les Innus du Labrador sont en processus de revendication territoriale. Dans sa lettre du 23 juin, rapportée par Radio-Canada et adressée au grand chef de la nation Innu, Simon Pokou, ainsi qu'à d'autres dirigeants, le premier ministre terre-neuvien, Tony Wickham, proposait d'accélérer les négociations sur la revendication territoriale des Innus en stipulant ceci. Citation. Une fois le traité finalisé, il n'y aura aucun doute quant aux droits des Inuits tels que représentés par la nation Inuit. Fin de citation. On peut bien penser ce qu'on veut, mais tout ça ressemble, à mon sens, à de la belle et bonne propagande pour manipuler les négociations en cours. Si l'on change la version de l'histoire pour faire passer l'occupation du territoire du Labrador par les Inuits de plusieurs millénaires à 300 ans, qu'on s'entête à admettre qu'un peuple autochtone ne vit pas, en fin de compte, sur le territoire depuis beaucoup plus longtemps que les colons, ça donne toute une marge de manœuvre à des négociations, ça. Non? C'est quoi l'expression, déjà? Si ça ressemble à un canard, si ça nage comme un canard, et si ça cacane comme un canard, c'est que c'est probablement un canard. Ah oui, c'est ça. J'aimerais me tromper. Quoi qu'il en soit, l'histoire ne s'arrête pas là. Deux manifestations en lien avec ce refus du gouvernement ternevien de changer sa position sur l'occupation du territoire par les Inuits ont eu lieu, forçant l'annulation d'un événement économique d'envergure dans la région, Expo Labrador. Les chefs de la nation Inuit du Québec ont également fait parvenir une déclaration par voie de communiqué en solidarité avec les Inuits du Labrador dénonçant, citation, tentative d'ingérence politique dans la présentation des faits historiques liés à la présence immémoriale des Inuits, fin de citation, dans le Nitassinan, leur territoire ancestral. C'est parfois fatigant d'être autochtone. On doit redoubler d'ardeur pour tout scruter afin de s'assurer que l'histoire racontée est juste, parce que les conséquences peuvent être conséquentes, justement. Dans ce contexte, il est normal d'être parfois méfiant. Je vous souhaite un bel été à tous et à toutes. Merci à ceux qui s'ouvrent à d'autres parties de l'histoire, ou encore mieux, à toute l'histoire. Fin de ce texte titré « Effacer l'histoire », signé Isabelle Picard, publié dans la presse du 28 juin 2006.